Jean-Philippe, vous nous parlez pour commencer de dévouement.
Bon, là tout de suite, ça va être compliqué de vous parler. Je suis en train de faire sa toilette. Rappelez dans l'après-midi, ce sera un peu plus calme. C'est ainsi que commence cette enquête prenante, remarquable, à la une de l'Alsace et des DNA, consacrée à celles et ceux qu'on appelle les aidants, ces familles dont un membre ne peut plus vivre seul à cause d'un accident, de la maladie, ce fils, ce père, cette femme qu'il faut soutenir sans cesse, comme si l'on était ses bras, ses jambes, parfois sa tête. Celui qui n'a pas le temps de vous parler précisément s'appelle Jean-Philippe, comme moi, sauf que sa vie à lui est entre parenthèses. Depuis que son épouse, Lara, 52 ans, est maintenue sous assistance respiratoire, là, à la maison. D'habitude, il n'en parle pas, garde tout pour lui, silencieux, invisible. Ces mots reviennent souvent quand les aidants vous racontent leur quotidien. Celui de Pauline, qui n'est plus fleuriste depuis qu'elle s'occupe de son frère atteint de myopathie, quand on ne peut plus être léger, quand il faut tout programmer et quand les autres finissent par vous oublier. 11 millions de Français directement concernés aujourd'hui, nous dit Cécile Fellmann dans l'Alsace, et ils seront, nous serons, bien plus nombreux dans 30 ans, 23 millions à nous occuper de l'autre. Conséquence logique du vieillissement de la population. Alors oui, ça vaut le coup de lire tous ces témoignages et de saluer le courage.
Vous nous parlez maintenant d'une pénurie
qui fait rarement, pour ainsi dire, jamais la une des journaux. Il faut dire qu'elle n'est due ni au Brexit, ni à la reprise effrénée de l'activité économique. Non, cette pénurie concerne les dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. En voici, tiens, justement, des spermatozoïdes en première page de Libération, sous microscope, infiniment petits, infiniment précieux. Mais ce n'est pas tant l'offre qui s'est tarie, vous explique Alexandra Schwarzbrot, c'est plutôt la demande qui a explosé, depuis notamment l'extension de la PMA aux lesbiennes et aux femmes célibataires. CQFD, il faut plus de stock, une campagne nationale vient d'être lancée et Libé en profite pour donner la parole à ces hommes qui ont donné. Par choix, par solidarité. Une évidence pour Alan, 49 ans, qui vous raconte que lui-même et sa compagne ont été confrontés à cette difficulté d'avoir un enfant. À l'époque, il y avait eu don d'ovocytes, puis la naissance de jumeaux, ils ont aujourd'hui 2 ans. Alors oui, c'est naturel, naturel de rendre l'appareil comme une sorte d'échange, dit-il. N'empêche que c'est assez particulier, contraignant. Arnaud, 38 ans, vous raconte les allers-retours entre sa banlieue et l'hôpital Cochin. 4 séances de recueil, des examens à passer. Bon, pour le reste, c'est de la masturbation, dit-il. On vous met dans une cabine avec un DVD assez pourri. Vous faites votre affaire. Merci et au revoir. Son rôle s'arrête là et il insiste alors que se pose la question de la levée prochaine de l'anonymat des donneurs. Arnaud est contre, radicalement contre. Valentin, lui, est moins catégorique, donneur également. Il précise, si dans 20 ans, quelqu'un toque à ma porte et me dit « Vous êtes mon père, j'aimerais apprendre à vous connaître », alors je me présenterai sans souci. Bon, et pour faire tourner tout ça, les amis, il faut quoi ? Il faut des blouses blanches, du personnel soignant, des femmes, des hommes, à bout de souffle. C'est la une du Figaro, grand dossier consacré une nouvelle fois à l'hôpital public. De plus en plus de fermetures de lits, de moins en moins d'infirmières, oui on sait, mais l'on est impressionné vraiment par la ténacité de tous ces gens, exténués pour cause de Covid et de contraintes économiques. Quand on a les sentiments de ne pas bien soigner, ça nous bouffe. Là c'est le docteur Étienne Langlinet qui parle avec ses tripes. Parce qu'il y a un sens dans notre engagement, dit-il. Personne ne vient travailler à l'hôpital par hasard.
Et puis Jean-Philippe, vous nous dites que c'est pour un sondage.
Sondage, ah là je sens les poils qui se hérissent, il va encore nous parler de la présidentielle. Eh ben non, justement, parce que trop de sondages tuent le sondage. C'est dans Sud-Ouest, entretien avec Alexandre Désé, maître de conférence en sciences politiques, qui vous donne ce chiffre. Rien qu'au mois de septembre, 12 sondages d'intention de vote ont été réalisés. 12 en un mois seulement, 40 fois plus de sondages en un demi-siècle, ça déborde. Alors pourquoi cette frénésie ? D'abord parce que les instituts ont réussi à nous faire croire qu'ils étaient en mesure de rendre compte de manière scientifique de ce qu'on appelle l'opinion publique, affirme Alexandre Désé. La suite, attention, elle est pour nous, les journalistes. Les sondages répondent parfaitement à l'économie médiatique d'aujourd'hui. Ils ne coûtent pas cher, délivrent une information immédiatement utilisable et permettent de faire le buzz s'ils sont porteurs de résultats spectaculaires. Bref, toute ressemblance, etc., etc. Mais je vais terminer cette revue de presse avec un peu de musique, de poésie. Et un peu de folie aussi, celle de Stéphane Echer, dont je découvre les aventures improbables et dépouillées dans le magazine Rolling Stone. Le Suisse parti en tournée contre vents et marées. Une série de concerts autofinancés, bricolés comme ça en plein air à la bonne franquette, Pas de rideaux, pas de coulisses, pas de chichi. La scène était un radeau, un vrai radeau. Magnifique, vous verrez les photos avec des planches et un mât. Le radeau des inutiles, comme l'a surnommé Stéphane Escher. Un bras d'honneur au Covid, évidemment. Et reportage réjouissant signé Sandrine Chenel. Quand vous saurez qu'en plus de la musique, Stéphane Escher a fourni au public de quoi boire et de quoi manger sous les étoiles, gruyère, terrine, graissin, fraises et jolies bouteilles, j'aurais adoré assister à ce concert. Alors question, est-ce que c'est rentable? Évidemment non, c'est un désastre financier, rigole Stéphane Escher. Mais on sent que ça lui a fait du bien, que l'essentiel était ailleurs. Allez Stéphane, je vous laisse le journal, mais j'ai pas l'impression que ça vous passionne.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent.
Merci Jean-Philippe Ballas pour cette revue de presse.
France Inter.